Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Avec Delphine Saltel. D'ordinaire, aux pieds sur terre, nous prenons un agra, un micro et nous partons enregistrer les gens chez eux. Dans leur cuisine ou sur leur canapé, au travail, dans les rues. Mais de temps en temps, nous changeons la formule et cela s'appelle les pieds sur scène. L'idée, c'est d'arriver à convaincre plusieurs personnes de monter sur une scène de théâtre, seule face au public, et de raconter une histoire vraie, quelque chose qui leur est arrivé, un souvenir, un moment fort de leur vie. Ce n'est pas vraiment du théâtre, ni complètement de la radio, il n'y a pas de décor, juste un rond de lumière qui éclaire celui qui raconte. C'est modeste et un peu fragile. Le 21 novembre, les pieds sur scène étaient invités à Lille au Théâtre du Nord. Les histoires que vous allez entendre se sont toutes passées dans le Nord. Ce sont des échos de Calais, de Douai ou d'Hénin-Beaumont. Des histoires qu'il nous semble juste de partager en public parce qu'elles parlent toutes d'une manière ou d'une autre de violence, intime, sociale ou politique. Ce sont des histoires fortes, grinçantes, qui font pleurer et réfléchir. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, ce sont 3 des 7 histoires qui ont été racontées sur la scène du Théâtre du Nord. Par Ondine Milo, Véronika Boutinova et Nordine Baraka.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai rencontré Dominique Cotteret en janvier 2015, il y a presque un an. À l'époque, il n'y avait pas encore eu son procès, donc vous avez sans doute entendu parler. Mais sa photo, son nom étaient partout, partout dans les médias. C'était la femme qui a tué ses 8 bébés en accouchant seule, en les étouffant à la naissance. Elle était présentée même comme un record, le plus important infanticide jamais commis en Europe. Parfois, les médias disaient le plus important au monde. J'avais en mémoire sa photo, une femme obèse, au corps immense, au visage rond et triste. Elle avait passé un an en prison et puis elle était ressortie dans l'attente de son procès. Son affaire avait été très largement suivie. Des télévisions de tous les pays avaient débarqué dans son petit village Villers-au-Tertre, près de Douai. Des Anglais, des Espagnols, des Allemands, des Coréens. Depuis l'affaire Courgeot, dite des bébés congelés, qui s'est passée en partie en Corée, les Coréens avaient tendance à penser que l'infanticide était un petit peu comme une sorte de spécificité française. Elle, en revanche, Dominique Cotteret n'avait jamais parlé à aucun média. Elle s'était terrée dans un petit village près de Lens depuis sa libération. Et moi, je demandais à son avocat de la rencontrer. Je voulais la rencontrer parce que c'est ce qui m'intéresse dans mon métier, au-delà des faits divers, de chercher à rencontrer les personnes, de chercher à comprendre ce qui les a amenés à commettre les actes terribles, ce qui les a amenés à basculer. Comprendre, ça veut pas dire excuser. J'ai pris le train, j'ai pris la voiture. Elle m'a fait rentrer chez elle, c'était une toute petite pièce qui faisait tout. Chambre, salon, salle à manger, salle de bain. Elle s'est assise, je me suis assise, elle a rien dit. Alors là, ça fait 20 ans que je suis journaliste, mais je me suis dit, je vais repartir. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Face à cette femme qui est terrifiée, qui est muette, qui ne dit rien, je vais pas arriver à lui demander pourquoi elle a tué ses 8 bébés. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer de lui faire parler de son enfance. Partir chronologiquement. Donc je lui ai posé des questions sur son enfance, et elle répondait pas. Elle était assise derrière sa table ronde, elle avait l'air de plus en plus terrorisée. J'ai demandé, est-ce que votre enfance était heureuse ? Elle m'a dit, ah oui, c'était une enfance heureuse. J'ai dit, mais il n'y avait pas des moments difficiles ? Elle m'a dit, oui, il y avait des moments difficiles. Après, je lui ai dit, bon, mais est-ce que c'était un peu comme ça aussi ? Elle me dit, oui, oui, c'était comme ça. Je dis, mais c'était pas un peu autrement aussi ? Ah oui, oui, c'était un peu autrement aussi. Et puis, quand je posais une question ouverte, comment c'était ? Aucune réponse. J'entendais le tic-tac de l'horloge. Le glou-glou de l'aquarium des poissons. Et le silence s'installait pendant des heures et des heures. Je me suis demandé si j'allais repartir, puisque ça servait à rien. Je faisais les questions et les réponses. Bon, je me suis dit, je vais essayer de la détendre un peu. Alors, c'est curieux d'essayer de détendre une femme qu'on est venu interroger sur le meurtre de ses 8 nouveau-nés. J'ai dit, Madame Cotteret, on va écouter le tic-tac de l'horloge, le glou-glou des poissons. J'ai même réussi à la faire rire un peu quand j'ai compté les minutes. J'ai dit juste, je ne parle plus parce que je voulais vous aider, mais là, je suis en train de vous suggérer vos réponses, ça n'a pas de sens. À la fin, ça a quand même duré 5 heures de silence. Elle m'a dit, ah, ça m'a fait vraiment du bien de vous parler. Alors, on a décidé de se revoir. Je l'ai revue plusieurs fois, à chaque fois dans les mêmes conditions, dans sa minuscule pièce. Elle s'asseyait toujours à la même place, moi à la même place. À force, quand même, elle s'est mise un petit peu à parler de temps en temps. Je me souviens d'une après-midi qui m'a marquée, où elle m'a dit, il faut que je vous dise une chose. Une fois, j'ai essayé de me faire avorter. C'était une question très importante, parce que c'était pourquoi cette femme intelligente, cultivée, qui travaillait comme aide-soignante auprès de personnes âgées, qui était une mère, une grand-mère adorée par ses filles et ses petits-enfants, pourquoi elle avait pu avoir ces gestes criminels barbares alors qu'elle avait tout pour ne pas en arriver là, accès à la contraception, les connaissances médicales et puis l'avortement. Alors j'ai pris plein de notes, je me suis dit voilà enfin, quelque chose qu'elle me dit d'elle-même. Je ne lui ai pas suggéré, je ne parlais même pas de ça à ce moment-là, voilà quelque chose dont je suis certaine que c'est vrai. Est arrivé son procès. J'étais assise au premier rang. Elle me faisait des petits gestes, parfois elle venait me voir aux suspensions d'audience. Le deuxième jour d'audience, la présidente de la cour d'assises lui a demandé si elle n'avait jamais tenté de se faire avorter. Elle a précisé même, par exemple avec des aiguilles à tricoter. Dominique Cotteret s'est dressée sur sa chaise et a crié « Ah non, ça, j'aurais jamais fait une chose pareille !» Bon, moi, j'étais sur mon banc, le stylo en l'air. Jusque-là, j'écrivais. Là, je pouvais plus écrire. J'ai plus du tout écrit de la journée. J'étais un peu paralysée. Après, elle a fait, entre guillemets, pire. C'est ce que les médias ont appelé le rebondissement du procès. Elle a dit « L'inceste avec mon père, ça n'a jamais existé. » Cet inceste était censé être l'explication de ses actes, l'explication à laquelle tout le monde se raccrochait. Mais elle a dit non. Ce que j'ai raconté sur mon père qui me violait quand j'étais petite et puis plus tard à l'âge adulte nos relations sexuelles consenties, non c'était faux, j'ai tout inventé. Dominique Cotteret a été condamnée à 9 ans de prison. Après son procès, pendant mes vacances, j'ai relu les notes que j'avais prises lors de nos rencontres. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses qu'elle m'avait dites spontanément, comme les aiguilles à tricoter, comme l'inceste dont elle m'avait beaucoup parlé, étaient fausses. Ou alors peut-être qu'elles n'étaient pas fausses, mais elle avait dit exactement le contraire après à son procès. Alors j'ai relu encore mes notes et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je sais de Dominique Cotteret ? Alors j'ai fait une liste de ce que je sais de Dominique Cotteret, qui est très peu par rapport à ce que je ne sais pas. Je sais que je suis toujours contente quand je vais voir Dominique Cotteret. Ce n'est jamais un pince homme. Maintenant qu'elle est en prison, je suis contente quand je lui écris, je suis contente quand je reçois ses lettres. C'est une femme à l'écoute, attentive, hyper prévenante, hyper sensible. Je sais que c'est une excellente mère. Ses filles Emeline et Virginie me l'ont assez montré et les femmes extraordinaires qu'elles sont devenues le montrent. C'est une excellente grand-mère. Elle a 3 petits-enfants qui l'adorent. Elle les garde tous les mercredis et pendant les vacances. Et maintenant qu'elle est en prison, elle leur manque terriblement. Je sais qu'elle a commis les actes les plus horrible qu'il soit, aux yeux de beaucoup, mais aussi aux miens. Je sais que si je vous raconte l'histoire de Dominique Cotteret, c'est parce que j'ai l'espoir que ça puisse servir à quelque chose. Servir à d'autres femmes qui se retrouvent dans la même détresse à ne pas passer à l'acte, à trouver le courage d'appeler à l'aide. Servir à leur entourage, à détecter les signaux de détresse, à ne pas détourner le regard, à trouver le courage de les aider. Je sais que j'ai pour Dominique Cotteret, malgré les meurtres de ses enfants auxquels je pense très souvent et qui me rendent immensément triste, je sais que j'ai pour elle une vraie amitié. Cette amitié est un mystère. Dominique Cotteret est un mystère. Je me suis résolue au fait que je ne la comprendrai jamais tout à fait. I'm sorry.
Je suis devenue bénévole à Calais en 2006. Je croisais de nombreux migrants de toutes nationalités et j'avais envie de les aider, sans trop savoir ce que ça signifiait au départ. Ce sont Maher et Ramanjan qui m'ont aidé à comprendre. La toute première fois que j'ai vu Ramanjan, c'était en hiver 2009, entre Noël et Nouvel An. Il était allongé à même le sol, sur un morceau de carton pourri, sous une couverture dégueulasse, parmi 200 à 300 autres migrants. La salle de sport qui les accueillait n'ouvrait que les nuits où les températures étaient négatives. J'allais là-bas le soir, aider à distribuer les cartons, les couvertures. J'y retournais très tôt le matin pour faire chauffer l'eau dans d'énormes marmites pour le thé, pour couper quelques morceaux de 4/4. Quand j'entrais, il me fallait enjamber les dizaines de corps allongés sur le carrelage glacé. Et parmi tous ces hommes, je l'ai remarqué lui en particulier, Ramanjan, peut-être à cause de son sourire triste. Il avait une vingtaine d'années, il était tout seul. Je l'ai recroisé quelques jours plus tard. La salle de sport avait fermé, la température avait un tantinet augmenté, mais il pleuvait un crachin glacial. Monsieur le ministre Éric Besson était venu en septembre 2009 faire bulldozériser la grande jungle afghane en grande pompe, mais les migrants continuaient de dormir dans les bois. J'avais passé l'après-midi avec d'autres bénévoles à découper des morceaux de plastique. Nous voulions offrir aux errants un kit de survie, et le plastique était censé servir à isoler leur corps du sol boueux dans lequel ils s'allongeraient pour dormir. Dès que j'ai aperçu Ramanjan, je suis allée lui offrir un kit de survie. Et je l'ai laissé partir. C'est quelques mois plus tard que je l'ai croisé de nouveau. Il dormait dans les ruines d'un squat derrière chez moi, alors même qu'il avait les papiers qui l'autorisaient à demeurer sur le territoire français. Cette fois-là, j'ai décidé d'en faire plus pour lui. Je ne pouvais pas le laisser partir comme ça. Alors je l'ai invité dans un bar pour qu'il boive un café, pour qu'il recharge son téléphone, pour qu'on discute. À ce moment-là, j'ai eu envie de l'inviter à dormir à la maison, mais je n'ai pas osé. Je me suis toujours fixée comme limite de n'héberger personne à la maison à cause de mes enfants. Alors pour échapper à ma mauvaise conscience, je me suis dit que j'allais l'emmener au Greta pour une formation pour apprendre le français. Là, la professeure qui est responsable, qui nous a reçus, a proposé à Ramanjan 2 heures de cours le mardi matin. Et je me souviendrai toujours de la déception de son visage, parce que lui en voulait plus, il voulait vraiment travailler, il voulait apprendre bien le français, comme il disait. Bon, finalement, Ramanjan s'en est assez bien sorti, sans moi. Il a obtenu une chambre dans un foyer. À ce moment-là, je lui ai offert un vélo pour ses déplacements. Je l'ai invité à manger chez nous à Noël. Ensuite, il a été embauché par l'auberge des migrants en tant que traducteur, cuisinier. Il a enchaîné sur une formation d'électricien. Il est tombé amoureux d'une bénévole française, catholique. Et Ramanjan sera papa à Noël. La deuxième rencontre marquante que j'ai faite, c'était cette fois en 2011, avec Maher. C'est tout ce que je connaissais de lui, Maher, son prénom. Il passait beaucoup de temps en face de chez moi, dans le parc. Je savais pas trop ce qu'il y trafiquait, mais Maher était souriant, sympathique. Il m'accostait et on discutait. Il commençait à faire partie de mon paysage. Alors là encore, c'était l'hiver. J'avais acheté 2 places pour aller à un concert. Et le soir venu, mon compagnon n'avait pas envie de sortir. Il préférait rester à la maison et garder les enfants. Je pars donc toute seule en voiture. J'aperçois Maher dans le parc et je lui fais signe, je le salue de la main. Il me répond, me fait signe de m'arrêter. Il veut monter dans la voiture. Moi, j'acquiesce mécaniquement, sans doute aussi pour lui montrer que je ne lui suis pas hostile comme la plupart des gens dans la ville. En chemin, je me dis que je vais l'inviter à écouter la musique avec moi, mais il est d'accord. Là, je suis contente de lui offrir un moment de loisir agréable et pas juste quelque chose pour survivre. Nous arrivons sur le parking. Il est bondé. Je dois aller me garer tout au fond, là où il n'y a plus de réverbère. Je sors de la voiture et j'ai à peine fermé la portière que Maher est là, face à moi, et m'enserre fermement dans ses bras, dans l'obscurité la plus totale. Je suis tétanisée. Dans un autre cas de figure, j'aurais repoussé n'importe qui, mais là, je me disais, ce garçon a traversé tellement de pays, il a, dans des conditions atroces, il est seul, il doit manquer terriblement de tendresse. Alors, je ne fais rien, je le laisse me prendre dans ses bras, mais en essayant de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à une accolade amicale. Évidemment, là où moi je mets de la compassion et de la fraternité, Maher voit une femme qui lui donne son accord. Il me serre plus fort, il cherche à m'embrasser, ses mains commencent à me toucher. Je suis complètement paralysée, là, tout au bout du parking, dans le noir, dans les bras d'un homme que je connais à peine, qui est deux fois plus grand que moi. J'essaye de ne pas paniquer, de ne pas résister ouvertement pour ne pas empirer la situation. Et puis finalement, je décide de repousser le plus naturellement possible, mais fermement ses bras, en prétextant qu'on va être en retard au concert. Et heureusement, Maher me lâche. Je me précipite vers le théâtre, il me suit. Nous nous retrouvons au bar et nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis très en colère, contre lui, contre moi. Et j'ai bien envie de le lâcher là, Maher. En même temps, je me dis que je lui ai promis de le ramener. Je sais qu'il peut avoir des problèmes avec la police si on le trouve tout seul dans la rue, la nuit. Alors je ne dis rien, je lui offre une soupe. Mais je m'isole pour appeler mon compagnon pour lui demander de venir nous chercher à la fin du spectacle. Quand j'ai raconté cette histoire à Ramanjan, ça l'a presque fait sourire. Il m'a expliqué que beaucoup de migrants ne comprennent pas pourquoi nous, les femmes, on les aide. En fait, comme la plupart des Calaisiens qui leur sont hostiles et qui nous appellent « putain migrants » ou « cul un migrant », c'est selon, les migrants eux-mêmes s'imaginent que nous, les femmes bénévoles, nous sommes en recherche d'aventures sexuelles. Ramanjan m'a trouvée bien naïve et m'a expliqué que si je ne voulais pas qu'une telle histoire m'arrive encore, il fallait que je ne cherche pas à provoquer les hommes. Cette mésaventure m'a fait longuement réfléchir, mais j'ai décidé de rester moi-même. Et quand il m'arrive de sortir en centre-ville en jupe courte et talons hauts, je fixe droit dans les yeux et les Calaisiens élevés au porno, et les Syriens interloqués, et les Albanais arrogants qui me reluquent de la tête aux pieds comme un vulgaire morceau de chair consommable. Et je continue d'aider comme je peux les milliers de migrants entassés dans le bidonville de la New Jungle de Calais.
Mon histoire commence dans la nuit du 24 au 25 mars 2014. À Hénin-Beaumont, c'est le jour des élections municipales. Steve Briouat, le candidat du Front National, a gagné la mairie. Je suis abasourdi. Mon père est un mineur algérien arrivé en France en 1938, à l'âge de 18 ans. Petit, j'ai passé mes samedis à la MJC, au cours de guitare, et à la bibliothèque municipale. Mes étés, c'était dans les colonies de vacances organisées par le comité d'entreprise des HBNPC, les ouvrières. Et quand j'ai été plus grand, j'ai passé mon BAFA pour devenir moniteur de colonies, dans les mêmes colonies. C'était mes jobs d'été. J'ai toujours défendu une culture commune et la mixité sociale. Et donc, ce soir-là, tout ce en quoi je croyais venait de s'effondrer, d'un coup. J'ai passé une nuit blanche. Il y avait des drôles d'idées qui me traversaient la tête, les genoux, comme on dit chez nous. Je me disais, je peux pas rester comme ça à rien faire. Je vais pas reprendre la vie comme un lundi normal. Mais je n'avais pas non plus envie de me battre. Ma famille, mes amis, m'ont dit qu'il ne fallait surtout pas baisser les bras, que c'était pas le moment, qu'il fallait absolument défendre nos convictions. Mais je me sentais pas partir en croisade contre des gens qui venaient de voter pour un programme basé sur la peur de l'autre. Non. Alors au matin, je me suis dit, il faut marquer le coup, et je décide de faire un geste absolu, une sorte de suicide. Je prends ma voiture et je pars pour Hénin-Beaumont. C'est à 15 km de Liévin, la ville où j'habite, avec ma femme et mes trois enfants. Je me gare sur la place du marché. Il n'est pas encore midi, dans les rues, il n'y a pas trop de monde. Je regarde ce décor familier. J'ai l'impression que tous les murs ont des yeux et qu'ils me regardent d'un air moqueur. Hénin, la sinistrée. Hénin, la ville de mes toutes premières fois. Et voilà, il y a eu les élections municipales. Et les journalistes, les Parisiens vont me piquer ma ville parce qu'ils veulent en faire un laboratoire politique. Et là, moi, je décide de dire adieu à Hénin-Beaumont, de ne plus jamais y remettre les pieds. Je remonte dans ma voiture, je démarre, puis je me mets à tourner dans les rues de la ville, une dernière fois. J'ai les larmes aux yeux. Je ne verrai plus mon lycée, le lycée Fernand d'Archicourt, là où j'ai eu mon baccalauréat. Je n'irai plus au Chanzy, mon café préféré, avec son baby-foot Stella Artois. Magnifique. Je passe devant le kebab. Aujourd'hui, un kebab, mais avant, c'était la friterie chez Moussa. C'est là où j'ai mangé mes premières frites mayonnaise. La piscine municipale, où l'eau du grand bassin était tout le temps glaciale. La mosquée, où je comprenais rien à ce que racontait l'imam. Rien. Et où j'avais si mal aux genoux pendant la prière du vendredi. Chaque coin de rue réveille un souvenir. Mon premier flirt anonyme à la marmotte. Mon premier job sur le marché chez Jean-Yann. Enfin, chez Bazise, le Kabyle. Le jour où j'étais embauché en CDI chez Azimut, une boîte informatique. Je passe à nouveau devant le centre culturel, l'Escapade, qui a remplacé la MJC. La MJC. C'était mon Woodstock à moi. J'y ai pris mes premiers cours de théâtre, au club de la Bascule. Un jour où j'étais rentré par hasard parce que la piscine en face était fermée. Et puis, je suis passé devant l'église. Je me suis aperçu que c'était un des rares endroits où je n'étais jamais entré. Pourtant, elle en impose, l'église d'Hénin-Beaumont. Elle a un style romano-byzantin qui se remarque. Elle fait vraiment partie du décor. Et donc, je me suis dit, à elle aussi, il faut dire adieu. Je garde ma voiture et j'y rentre. À l'intérieur, le silence est impressionnant. Ce qui me frappe, c'est la place. Tous les bancs sont vides. En comparaison avec la mosquée, pour la prière de l'Aïd, quelques jours plus tôt, on était obligé d'aller prier dehors, sur la pelouse, tellement il n'y avait plus de place. Alors je me suis dit, on pourrait mutualiser. C'est vrai, il n'y a pas église le vendredi. En fait, je crois que j'ai dit tout ça à voix haute et j'ai même éclaté de rire. Alors un homme s'est avancé de moi, et il m'a demandé de me taire, et il m'a dit « Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? C'est pas catholique, hein, un arabe dans une église. » Ça m'a étonné, parce qu'il avait l'air correct. Pas le profil du frontiste décomplexé. Je me suis souvent fait traiter de bougnoule à un moment, mais je me suis jamais vraiment senti persécuté par ce racisme ordinaire. Mais ce jour-là, je crois que les gens se sentaient légitimés. Tout d'un coup, dire des choses pareilles, ça devenait possible et même banal. Le ton est monté. Il m'a dit qu'il était raciste, comme on dirait qu'on est gaucher ou végétarien. On allait en venir aux mains, se battre dans l'église, mais une vieille dame nous a demandé de nous taire. Alors on est sorti au bistrot pour s'expliquer. J'avais pas vraiment le moral à la violence. Alors je lui ai dit que de toute façon, t'as gagné, et puis que tu peux te la garder, ta ville et ton église. Et là, bizarrement, il s'est calmé. Alors on s'est mis à discuter, puis à force de discuter, petit à petit, son visage m'est revenu. Et j'ai fini par le reconnaître. C'était Serge. On était ensemble au lycée. Il me dit qu'il se souvient très bien de moi parce qu'il était notre souffre-douleur. Parce qu'on n'arrêtait pas de se moquer de lui, parce que lui, il n'écoutait que du hard rock. Alors ça nous faisait un point commun et un autre. Un autre point commun, c'est qu'on était tous les deux sortis avec Annick Morel. De se remémorer tout ça, ça nous a calmés. Il m'explique qu'il en veut à la terre entière, parce qu'il galère pour trouver un boulot. Il me dit qu'il en veut particulièrement aux étrangers qui, selon la formule consacrée, viennent de lui piquer son boulot et puis viennent lui manger son pain, etc. Alors je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il me dit qu'il a une formation d'électricien. Moi, je suis le chef d'un service technique communal. Et à l'époque, j'avais besoin d'un électricien. Alors je lui dis, file-moi ton CV, on ne sait jamais. Et quelques semaines plus tard, je l'ai fait embaucher.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Les Pieds sur scène à Lille, deuxième partie, avec Ondine Milo, Véronica Boutinova et Nordine Baraka. Une émission mise en onde par Annabelle Brouard, attachée de production Sandrine Chaperon, prise de son Yvan Turc et Jean-Pierre Zing, captation vidéo Florian Le Goff. Merci au Théâtre du Nord, à Anne-Marie Peignet et Marie Desplechin. Merci à Aïdé Sabéran, Claire Lefebvre et Marine Turki, Juliette Eman et Thomas Piasecki. Vous pouvez visionner les captations vidéo du spectacle sur le site de franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Bon après-midi à tous sur France Culture.